santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette derrière ce micro, Jean-Sébastien Laliberté, Rémi Hermoso derrière la console. Et on vous accompagne ensemble pour ce 30 minutes de C'est bon pour la santé sur Canal M. Les troubles digestifs, c'est la deuxième cause d'absentéisme au travail et à l'école. Ça touche environ 10 à 15 de la population en Europe et en Amérique du Nord. Et depuis quelques années, depuis 2005, il y a une diète qui s'appelle FODMAP, qui a été développée par une nutritionniste en Australie et qui fait de plus en plus parler d'elle grâce à des résultats positifs, significatifs, scientifiques également, pour soulager les troubles digestifs. Le docteur Pierre Nice, endocrinologue, nutritionniste et auteur, a justement écrit un livre sur le sujet et je le reçois en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, une équipe de chercheurs a identifié un des gènes responsables de la production d'un type de cellule essentielle à la vision. Ça vous semble peut-être compliqué, mais ce qui est important à retenir, c'est que cette découverte pourrait éventuellement permettre de lutter contre la cécité. Pour démystifier tout ça, M. Michel Cailloux, lui professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal, est là pour nous en parler. Michel Cailloux, bonjour.
Oui, bonjour Madame Paquette.
Je vous ai appelé il y a ça, bon, à peu près une semaine pour vous dire je m'intéresse beaucoup à votre étude. Je trouve que c'est important d'en parler, mais je ne comprends rien. Et gentiment, vous avez accepté de nous vulgariser ça aujourd'hui, cette étude. Et on se disait, pour comprendre comment contrer la cécité, il faut peut-être d'abord comprendre c'est quoi la vision. Et ce que je semblais comprendre, c'est que la rétine de l'œil, c'est composé de deux éléments qui permettent qu'on puisse voir, finalement.
Oui, exactement. Alors, dans le fond de nos yeux, on a ce qu'on appelle la rétine. Alors, la rétine est une partie nerveuse de notre œil qui nous permet de détecter la lumière. Et dans la rétine, donc parmi les cellules présentes dans cette région de l'œil, on a des cellules qu'on appelle photoréceptrices. Alors, c'est des cellules qui nous permettent de détecter la lumière. Il y a deux types de ces cellules, les cônes et les bâtonnets. Alors, les cônes nous permettent de voir le jour, de voir les couleurs, ils nous permettent une haute acuité visuelle aussi, alors que les bâtonnets sont plutôt utilisés pour la vision le soir ou la nuit lorsqu'on conduit et puis l'intensité lumineuse est assez faible. C'est des cellules qui sont très, très sensibles à la lumière. Alors, ces deux types cellulaires qui sont présents dans nos yeux nous permettent de détecter la lumière et puis de voir, finalement.
Mm-hmm. Et quand une personne perd la vue, un handicap visuel, est-ce que c'est les cônes ou les bâtonnets qui sont affectés?
Ça dépend des conditions. Alors, il y a certaines maladies, comme par exemple la rétinite pigmentaire, qui affectent principalement les bâtonnets. Alors, ces gens-là vont voir une perte de vision, premièrement, le soir ou la nuit. C'est comme ça qu'ils vont se rendre compte souvent qu'ils sont atteints de la rétinite pigmentaire. Alors que, par exemple, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est plutôt les cellules cônes qui vont mourir. Et puis, ces cellules, puisqu'elles sont localisées dans le centre du champ visuel, donc on va voir une perte, détecter une perte de vision centrale, donc dans le centre du champ visuel, et dans ce cas-là, c'est les cônes qui dégénèrent.
Est-ce que l'on peut penser, et bien sûr, j'imagine, Michel Cailloux, que votre équipe se penche sur ce genre de problématiques-là, de solutions aussi? Est-ce qu'on peut envisager des thérapies qui pourraient venir contrer ces maladies-là?
Oui, il y a présentement toutes sortes d'avenues qui sont envisagées par les chercheurs à travers le monde. Une, entre autres, qui est très prometteur, je pense que c'est une approche qui pourrait nous permettre de guérir ces maladies, c'est ce qu'on appelle les thérapies cellulaires. Alors, Alors, pour résumer de façon très simple, la thérapie cellulaire nous utilise des cellules souches neurales. Alors, ces cellules souches, c'est un peu comme des petites cellules magiques qui peuvent générer n'importe quel type cellulaire du système nerveux ou de la rétine, par exemple. Et ces cellules, on les retrouve, entre autres, il y en a même dans l'œil adulte. Et puis, on peut les placer en culture et puis pouvoir générer le type cellulaire qui nous intéresse, par exemple, le cône ou le photorécepteur, pour ensuite réimplanter ces cellules dans un patient atteint d'une dégénérescence de ces cellules. Et puis, en espérant maintenant de recouvrir la vue comme ça.
Mm-hmm. En ce qui a trait à votre étude, Michel Caillouette, donc cette percée qu'on dit importante pour lutter contre la cécité, est-ce que vous êtes intéressé plus à restaurer les cônes, les bâtonnets, ou c'était vraiment un intérêt pour ces deux éléments-là?
C'est un intérêt pour les deux. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que c'est un gène qui contrôle la production des cônes. Okay. Alors, présentement, je parlais d'approche de thérapie cellulaire pour régénérer les cellules qui sont mortes dans certaines maladies, mais présentement, les approches pour produire des cônes sont très inefficaces. Alors, on arrive à produire des bâtonnets en laboratoire, mais la production de cônes est beaucoup plus problématique.
Et vous ne savez pas pourquoi, hein?
Pardon?
Et vous ne savez pas pourquoi c'est plus simple pour les bâtonnets que pour les cônes?
On comprend pas très bien pourquoi, et c'est justement ce qui nous a lancé sur ces études, c'est que on voulait comprendre la raison de tout ça. Et puis notre découverte fait en sorte que maintenant on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui permet la production de bâtonnets et de cônes. Et puis ce qu'on a découvert finalement, c'est qu'on a un gène qui est exprimé dans nos cellules qui permet la production des cônes à un moment très précis à partir de ces cellules souches. Alors, c'est une découverte qui est très fondamentale toujours, mais par contre, ça permet là, d'établir les bases pour la suite.
Oui, et c'est une découverte qui pourrait permettre de nouveaux traitements.
Ah, évidemment, c'est sûr que ce qu'on espère faire dans le futur, c'est pouvoir manipuler l'expression de ce gène qu'on a découvert et puis augmenter la production de cônes pour, par exemple, faire des greffes chez des patients qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple.
Est-ce que vous allez vous intéresser, bien sûr, il est peut-être tôt là, pour le dire, mais à certaines maladies de l'œil plus qu'à d'autres. Est-ce que vous pensez que votre étude pourrait convenir plus à certains types de pathologies plus particulièrement?
Oui, c'est certain que pour le moment, on est encore au stade expérimental et puis on est au stade où les études sont toujours en laboratoire dans des modèles animaux. Mais évidemment, parce que l'étude touche surtout les cônes, il semble que notre découverte sera probablement plus applicable à des maladies qui sont causées par la perte de ces cellules photoréceptrices cônes.
Okay.
Alors, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, ou la dystrophie cône-bâtonnet sont deux exemples de maladies là, qui pourraient peut-être bénéficier de cette découverte. Il y a présentement des études cliniques, même pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui sont en cours, pas pour la greffe de cellules photoréceptrices, mais pour d'autres types de cellules qui sont aussi affectées dans cette maladie. Alors, ça prouve qu'il y a effectivement de l'espoir, je crois, pour l'utilisation de thérapie cellulaire dans des conditions comme de cécité.
Mm-hmm.
Et puis, nous, on est très encouragés par tout ça.
Beaucoup d'espoir, mais est-ce qu'on est à même de dire si c'est sécuritaire, si c'est à quel point c'est efficace ou c'est trop tôt pour le dire encore?
Non, voilà. En fait, les études cliniques que je mentionnais précédemment sont en cours pour un type cellulaire en particulier. Jusqu'à présent, ça semble être assez prometteur, c'est-à-dire que c'est assez sécuritaire et il n'y a pas eu de problème majeur jusqu'à présent. Par contre, les études cliniques pour la greffe, par exemple, de cellules photoréceptrices cônes, comme je mentionnais plus tôt, sont beaucoup plus loin. C'est pas en cours présentement chez l'humain encore. C'est encore à des stades très préliminaires. Mais c'est des étapes qui doivent être franchies. Et comme vous le disiez, on a besoin de savoir si c'est sécuritaire, si c'est efficace. Et tout ça va être fait d'abord en laboratoire, en culture cellulaire, ensuite dans des modèles animaux et éventuellement chez l'humain. C'est quelque chose qui prend du temps, mais j'espère pouvoir voir la fin de ça d'ici la fin de ma carrière.
Qui prend du temps, qui génère beaucoup d'espoir. Est-ce que, en terminant, Michel, quand on fait retentir une nouvelle comme ça, une percée scientifique comme ça, ça nous amène des responsabilités parce qu'on se dit, oh, le téléphone va sonner et des gens qui vivent avec des handicaps visuels ou une perte de la vue qui vont vouloir obtenir ce genre de greffe-là et avoir des soins?
Oui, bien évidemment. C'est sûr que éventuellement, pour le moment, on n'en est pas là. J'espère qu'on en arrivera un jour où il y a des patients qui pourront être traités en utilisant les thérapies cellulaires. Mais je devrais mentionner que c'est pas seulement grâce à nos travaux, mais c'est grâce aux travaux de centaines et de centaines, sinon de milliers de chercheurs à travers le monde qui, tous ensemble, vont réussir à faire avancer la science à un point où les connaissances vont être suffisamment avancées pour avoir des applications médicales qui seront utiles et des traitements qui pourront être utilisés en clinique là, à tous les jours. Alors, c'est certain que ça vient avec une responsabilité et puis on espère en arriver là, mais pour le moment, on n'en est pas là encore. Oui. Il faut d'abord faire les étapes plus fondamentales, comme je mentionnais.
Bien, on suivra ça de près ici au Canal M. Michel Caillouette, vous êtes professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Docteur Pierre Nice, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes endocrinologue, nutritionniste et auteur de ce livre « Plus jamais mal au ventre, la solution FODMAPS pour soulager vos troubles digestifs ». C'est publié chez Édito. Le mot FODMAPS, c'est d'abord un acronyme qui désigne, et là je résume, des glucides qui sont présents dans certains aliments. Ça signifie quoi? Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais peut-être pour mettre la table, l'acronyme FODMAPS.
Alors, FODMAP, ça signifie en anglais, mais vous me pardonnerez, mon anglais est épouvantable, fermentable by colonic bacteria, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols, ce qui veut dire en fait que ce sont des glucides qui sont fermentissibles par la flore intestinale et qui en fait sont des oligosaccharides, des disaccharides, des monosaccharides et des polyols.
Et ce sont des glucides, des sucres présents dans certains aliments, donc différentes variétés, on pourrait le vulgariser ainsi.
Oui.
Est-ce que les FODMAPS ou FODMAPS, c'est difficile à digérer pour tout le monde ou seulement pour certaines personnes?
Non, c'est surtout pour certaines personnes, si vous voulez, ça dépend en particulier de beaucoup de facteurs environnementaux, le stress, etc., mais aussi de la qualité de la flore intestinale. Donc, c'est pas pour tous, bien entendu, mais les symptômes sont faciles à reconnaître. C'est quand on n'est pas bien à digérer, ballonnement, troubles digestifs, des gaz, des troubles du transit, etc.
Souvent, les symptômes que l'on met dans le grand baluchon colon irritable et avec un tel diagnostic, là, souvent, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment jongler avec ça.
Oui, c'est pour ça que plutôt, si vous voulez, que d'avoir une réponse, on va dire, mécanique et médicale, la première étape, ça consiste ou peut consister justement à suivre une diététique qui va diminuer la quantité des FODMAP dans l'alimentation et à partir de là, voir si les symptômes s'améliorent, ce qui est le cas bien souvent.
Mm-hmm. Est-ce que les FODMAP sont responsables du syndrome du côlon irritable?
C'est en lien très fort, en tout cas, oui.
Et est-ce que ça peut se développer au cours de la vie, c'est-à-dire, on n'est pas du tout affecté par ces glucides-là, puis à un moment donné, plus tard dans notre vie, ça apparaît?
Oui, parce que vous allez, par les facteurs d'environnement, la pollution entre autres, mais pas seulement, l'alimentation aussi d'autre part, vous pouvez malheureusement modifier ou infléchir légèrement votre flore intestinale et à partir de là, avoir une tolérance qui peut être très bonne au départ et moins bonne à l'arrivée.
Mm-hmm. On les retrouve, ces glucides-là, dans quel genre d'aliments?
Alors, si vous voulez, on peut les lister très rapidement et les développer après si vous le souhaitez. En fait, les oligosaccharides, c'est surtout ce que l'on va retrouver dans les légumes et les légumes secs. Les disaccharides, c'est le lait et les produits laitiers essentiellement. Mm-hmm. Les monosaccharides, c'est surtout ce qu'on va retrouver dans certains fruits, pas tous bien entendu. Et les polyols, bon, ce sont d'autres types de glucides en fait que l'on va trouver soit de façon naturelle dans certains types d'aliments, les fruits en particulier, mais aussi et surtout en additifs alimentaires. Vous savez, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais chez nous, quand on a la mention légale sans sucre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de glucides.
Ben non.
Je pense en particulier aux chewing-gums sans sucre, qui sont en fait sucrés pour avoir le goût avec des polyols. Et c'est ce qui explique que leur tolérance digestive soit vraiment pas toujours très bonne.
Mm-hmm. Je reviens encore à tenter de vulgariser, parce que bien sûr, c'est une diète qui existe depuis à peu près 2005. Ça a été popularisé, si je peux m'exprimer ici,
oui,
par une nutritionniste en Australie. Et puis, je le dis en introduction, il y a vraiment des résultats probants, positifs,
oui,
scientifiques, mais ce n'est pas tant connu encore du grand public.
Non.
Si on veut vraiment mettre des aliments, peut-être à éviter si on ressent ces symptômes-là.
Mais bien sûr, oui. Alors, évidemment, ils sont dans le bouquin, ça, vous l'avez compris.
Oui, bien sûr.
Si vous voulez, très schématiquement, alors la première partie de votre remarque est juste, mais vous savez que à partir du moment où on a une donnée scientifique qui est connue, prouvée, démontrée, il faut malheureusement, généralement, une bonne dizaine d'années avant qu'elle ne passe dans le grand public. C'est,
oui,
c'est souvent très, très long. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, très schématiquement, ce que je peux vous dire, par exemple, en ce qui concerne les oligosaccharides, je vous dis que l'on retrouve dans certains légumes et dans certains légumes secs. Bon, là, il y a deux catégories, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les fructanes et les galactanes. Et globalement, par exemple, pour les fructanes, vous allez retrouver ça dans le poireau, vous allez trouver ça dans l'oignon, vous allez trouver ça dans le chou. Donc ça fait déjà partie, si vous voulez, d'aliments qui sont très difficiles à digérer, les topinambours aussi. Mmh. Et vous allez trouver pour les légumes secs, mais ça, j'allais dire malheureusement, beaucoup sont concernés, les haricots, les lentilles, les pois chiches. Et vous savez bien que s'ils ne sont pas très bien préparés en plus, vous risquez malheureusement d'avoir des intolérances extrêmement importantes. Mmh. Alors donc ça, c'est la première partie, on va dire, par exemple, au niveau des oligosaccharides. Bon, les disaccharides, le lait et les dérivés, bon, ça, c'est facile à repérer, bien entendu. Il faut dire, par contre, pour les disaccharides, que plus vous allez vous orienter vers des produits qui sont proches du lait, et plus vous risquez d'entraîner une intolérance. Donc, par exemple, les fromages fermentés, type les bleus, les roquefort, etc., ça, c'est beaucoup mieux toléré chez les intolérants au FODMAP que les fromages frais, type caillade, etc. Les autres types d'aliments qui peuvent être concernés, notamment sur les monosaccharides, c'est surtout le fructose. Hein. Vous savez que il faut, pour qu'il y ait une bonne digestion, il faut qu'il y ait un ratio entre le fructose et le glucose qui soit correct. Et donc à partir de là, vous pouvez avoir pour certains fruits un ratio qui n'est pas très bon. Et donc ça et là, si vous voulez, on peut dire par exemple pour les abricots, c'est pas toujours très très bien toléré, notamment en ce qui concerne les abricots secs. Pour les figues, par exemple, on va aussi trouver un peu ce problème. Pour les grenades, pour la mangue, Pour les pêches, les poires, les pommes, malheureusement, qui sont des fruits très habituels, on ouais. peut avoir des intolérances, notamment par rapport à ce type de digestion. Bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a des modes de préparation qui permettent d'améliorer un petit peu la tolérance par rapport à tout ça. Mmh. Donc voilà pour ce qui concerne ce type de monosaccharides qui sont un peu ennuyeux. Et puis les polyols, je vous dis, mais c'est essentiellement le problème malheureusement des aliments qui sont enrichis en polyols. Mais il y a aussi certains fruits. Alors pour les polyols, les aliments qui sont enrichis, ça il faut regarder les étiquettes. Regarder s'il y a du sorbitol, du mannitol, du xylitol.
Tout ce qui finit par ol finalement.
Voilà, ce qui finit par ol, il faut s'en méfier. Et puis il y a certains fruits qui en contiennent finalement pas trop mal, ou beaucoup même, type fruits séchés d'une façon générale. Donc là on cumule plusieurs types de facteurs un peu ennuyeux, mmh. les champignons qui peuvent être un peu ennuyeux à digérer pour certains, les dattes qui peuvent aussi poser des problèmes, et puis les pruneaux, les fameux pruneaux que l'on consomme de façon habituelle à viser un peu laxative, contiennent aussi pas mal de polyols et donc ne sont pas toujours très faciles à digérer.
Mmh. Ce qu'il y a de bien dans votre livre « Plus jamais mal au ventre », c'est qu'il y a aussi les quantités à privilégier, ce qui est oui. plus à éviter. Est-ce qu'il faudrait, si l'on ressent les symptômes de ballonnement, de gaz, là, tout ce qu'on a énuméré plus tôt, complètement éliminer ces aliments pour peut-être ensuite les réintégrer ou plutôt juste respecter des portions?
Alors, dans un premier temps, pour savoir, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent, si vous voulez, pour savoir si on est intolérant au FODMAP, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule solution, malheureusement, il n'y a pas de test biologique qui permette de dire, par exemple, voilà, on va faire tel dosage, on saura si vous êtes ou non intolérant. Mmh. La seule solution, elle est pragmatique et empirique. Il faut tout supprimer. Donc c'est vrai que pendant une période, si vous voulez, de quelques semaines, c'est pas toujours très facile ouais. parce que il y a beaucoup d'aliments qui sont de consommation très courante. Il faut tout supprimer et voir quelle est l'évolution des symptômes. Normalement, si vous voulez, si on est intolérant au FODMAP, quand on supprime ce type d'aliments, déjà en 15 jours, 3 semaines maximum, il y a une nette amélioration des troubles. Donc on poursuit l'éviction totale ou autant que faire se peut pendant environ 6 semaines, et après progressivement on va réintroduire chaque type d'aliment dans chaque catégorie pour aller repérer celui qui pose réellement un problème. Parce que, et c'est ça la particularité, on constate en fait, si vous voulez, que certains vont être intolérants avec un type de FODMAP dans une catégorie, et un autre va être intolérant à un autre type de FODMAP dans une autre catégorie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien savoir quels sont les aliments auxquels on est intolérant, pouvoir les réintroduire progressivement catégorie par catégorie pour finalement revenir à une alimentation qui soit beaucoup plus facile avec le quotidien. Et c'est ça le but. C'est oui. pouvoir revivre normalement en ayant repéré les aliments qui sont les plus nuisibles pour un individu donné. Et donc, du coup, les autres, après, on est tout à fait tranquille. C'est ça qui est intéressant.
Mais, Pierre Nice, ça demande énormément de rigueur, de discipline, en tout cas, du moins au départ.
Oui.
Faudrait-il avoir un petit carnet où on note un carnet alimentaire?
Vous savez, enfin, dans mon expérience, mais si les gens ont peur de se tromper, dans mon expérience, les gens finissent par reconnaître les aliments auxquels ils sont plus ou moins intolérants. Moi, je pense à une patiente, par exemple, qui est relativement intolérante aux champignons et qui, par ailleurs, est finalement pas si intolérante que ça aux lentilles, haricots et pois chiches. Je peux vous dire, elle le sait, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'à partir de là, elle va demander quand elle est à l'extérieur si par hasard des champignons auraient été intégrés dans une sauce ou une préparation quelconque. Donc au début, pourquoi pas avoir un petit carnet, c'est très bien. Mais après, je vous promets, les gens le savent très, très bien.
Mm-hmm. On voulait aborder les façons de cuisiner qui pourraient être plus favorables, ces aliments-là.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, notamment sur le mode de préparation par rapport aux fruits, par exemple. Il est clair que déjà, si on prépare un fruit, je pense à une pomme, qui contient quand même pas mal de FODMAP, on peut déjà, dans le mode de préparation, s'il y en a une tolérance qui n'est pas trop mal, râper la pomme, mettre un filet de citron, la sucrer avec un petit peu de... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom, d'agave ou quelque chose comme ça. Et ça passera très bien, ou en tout cas, ça passera beaucoup mieux. Donc après, il y a le mode de cuisson des autres aliments, notamment la cuisson vapeur, la cuisson à l'eau, etc., qui va enlever une partie des éléments indigestes et qui permettra à ce moment-là une meilleure digestion. Et notamment, si on fait cuire dans deux eaux, par exemple pour les choux, hein, les choux-fleurs par exemple, vous pouvez très bien les faire cuire en deux eaux, les faire blanchir dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, en ayant changé l'eau, les faire recuire. Et donc à ce moment-là, vous aurez quelque chose qui sera bien plus digeste. Faire germer, par exemple, les lentilles, vous savez, vous les mettez dans un peu d'eau, dans un petit récipient juste couverte. Juste quand vous voyez apparaître un tout petit germe, à ce moment-là, vous savez que la première partie des glucides peu digestes a été consommée par la germination. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup plus digeste. Et puis, pareil pour... certains produits, on peut très bien, entre guillemets, les ramollir avec une marinade ou quelque chose comme ça. Une salade de fruits, par exemple, avec un filet de citron, sera beaucoup plus digeste que le fruit pris comme ça de façon un petit peu brute.
Et bien sûr, ce sont des trucs que l'on retrouve dans votre livre. Mais oui, c'est bien de voir qu'il y a des stratégies pour s'adapter également. Je trouve que ça devient peut-être moins une montagne ainsi si on a des troubles digestifs puis qu'on ne sait pas trop par quel côté prendre ça, là.
Oui, oui, tout à fait. Je pense, si vous voulez, enfin, on voit trop souvent des gens qui sont pas invalides, j'exagère bien entendu, mais ça pose un problème en société. Vous imaginez quand vous êtes sorti, invité, etc., que vous avez des aliments que vous ne digérez pas, vous vous mettez à gonfler comme un ballon de baudruche. Pour les hommes, à défaire la ceinture du pantalon, enfin, c'est très, très inconfortable. Donc on peut, par ce mécanisme-là, si vous voulez, en un temps qui finalement n'est pas aussi long que ça, arriver à permettre à ces gens de retrouver une vie sociale normale, ce qui est quand même vraiment très, très important.
Oui, et de retrouver du plaisir à manger aussi, ça c'est assez important aussi. Docteur Pierre Nice, vous êtes endocrinologue, nutritionniste et auteur du livre « Plus jamais mal au ventre, la solution FODMAPS pour soulager vos troubles digestifs » publié chez Édito. On vous joignait du côté de la France, donc il est 20h30 et des poussières. Bonne soirée, Docteur Nice.
Très gentil, merci, et puis bonne journée pour vous, puisque décalage horaire oblige.
Et voilà, merci beaucoup, au revoir.
C'est moi qui vous remercie, au revoir.
Rémi Hermoso à la mise en onde de cette émission. Marianne Paquette derrière le micro. On vous souhaite un très, très, très bon et beau week-end. Profitez-en pour vous reposer. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dès lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.